Fréquence protestante, le parcours européen, Thomas Ferenczi.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Protestante pour un nouveau parcours européen en compagnie de Jean-Pierre Chevènement, avec lequel nous nous demanderons si l'Europe est sortie de l'histoire et si tel est le cas, comment on peut l'y faire revenir. Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes, faut-il le rappeler, sénateur du territoire de Belfort après en avoir été le député. Vous avez été plusieurs fois ministre dans les gouvernements de Pierre Mauroy, de Laurent Fabius, de Michel Rocard et de Lionel Jospin, à des postes différents. Vous êtes président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et puisque nous allons parler d'Europe, je rappelle également que vous avez combattu le traité de Maastricht en 1992 et le traité constitutionnel en 2005. Vous venez de publier un nouveau livre qui s'appelle 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, avec un point d'interrogation. Pour l'interrogation peut-être superflue d'ailleurs, puisque pour vous la réponse est clairement oui. L'Europe, après deux guerres mondiales meurtrières, écrivez-vous, semble s'être résignée à ne plus faire l'histoire, mais à la subir. Alors ce sera ma première question. Qu'est-ce qui vous conduit à porter un diagnostic aussi sombre, ou en tout cas à formuler un avertissement aussi sévère, alors même que l'Europe demeure une des grandes puissances économiques de la planète, malgré la crise, qu'elle est plébiscitée en Ukraine et ailleurs, par exemple dans les Balkans, et qu'elle joue un rôle important sur la scène internationale. On l'a vu dans les négociations avec l'Iran, et on en voit même en Afrique, où par l'intermédiaire de la France, l'Europe est présente. Alors, pouvez-vous justifier ce jugement ?
Écoutez, la Première Guerre mondiale a éclaté il y a 100 ans, et on a parlé à propos des deux guerres mondiales d'une guerre de 30 ans, 1914-1945. Ça fait donc 70 ans que ces guerres mondiales, qui ont largement détruit l'Europe et son capital à la fois matériel, humain et moral, se sont quand même terminées. 70 ans de ce qu'on appelle construction européenne, mais sur la base de principes qu'il faudrait peut-être mettre en doute. On a prétendu construire l'Europe sur le marché, et c'est devenu la concurrence pure et parfaite administrée par la Commission européenne. On a prétendu construire l'Europe à l'ombre de la tutelle américaine, ce fut l'OTAN qui a survécu à la fin de l'Union soviétique et qui perdure aujourd'hui. Enfin, on a construit l'Europe à partir d'une certaine marginalisation des nations qui est dans la méthode Monnet. Jean Monnet voulait que la haute autorité et le monopole de la proposition, c'était dans le système de la CECA. Maintenant, c'est la Commission européenne qui a le monopole de la proposition. Donc, les nations ont été marginalisées. On a tenté de les marginaliser. Et c'est vrai que les parlements nationaux ont le sentiment qu'il ne leur revient plus que de appliquer les directives de la Commission, la réglementation communautaire, que cette Europe est en définitive extrêmement technocratique, peu démocratique. J'ajoute que quand on regarde les promesses qui nous étaient faites au départ et réitérées au moment de la conclusion de Maastricht, l'Europe apporte la prospérité, nous voyons quand même un taux de chômage qui est supérieur à 12%, l'Europe apporte la puissance, en réalité l'euro qui devait quasiment détrôner le dollar perd du terrain dans les réserves des banques centrales à l'échelle mondiale, et on voit bien que cette puissance est factice, que l'Europe n'a vraiment pas réellement son mot à dire, par exemple sur les affaires du Proche-Orient. On peut s'interroger, s'agissant de l'Ukraine où l'Europe est en première ligne, sur le point de savoir si c'est vraiment l'Europe qui est en cause ou s'il n'y a pas un dessein géopolitique d'une autre nature, hein, qui consisterait à refouler plus encore dans ces forêts de Moscovie la puissance russe. Et je crois que les Ukrainiens se font quand même quelques illusions sur les capacités financières de l'Europe. Aujourd'hui, ils s'imaginent que les fonds structurels vont être déversés sur l'Ukraine comme ils l'ont été sur les PECO. Je pense là qu'il y a au moins les racines d'un malentendu. Enfin, le problème ukrainien est trop vaste et nous n'allons pas l'aborder.
On parlera de la Russie quand même.
On parlera de la Russie si vous voulez, mais on nous a dit l'Europe c'est la paix, mais je me pose la question de savoir si ça ne va pas être la guerre. Ou du moins la guerre froide, une nouvelle guerre froide. Oui. Donc, je conclue, si vous le permettez, je pense que l'Europe, objectivement, a vu sa place décliner constamment, du point de vue démographique, du point de vue économique aussi, même si elle reste un marché commercial important. Et la question se pose de savoir comment elle peut exister sur le plan militaire. Vous avez évoqué l'Afrique, c'est un bon exemple. Seul un pays comme la France a la vélocité pour réagir dans des affaires comme le Mali ou même le Centrafrique. L'Europe se caractérise par une totale impotence stratégique.
L'Europe en tant que telle, mais ses principaux États peuvent agir.
Disons que deux d'entre eux,
La
France et la Grande-Bretagne, sont en capacité de réagir, et forcément à petite échelle, et sans véritable appui de leurs partenaires européens.
Alors, si vous permettez, je voudrais bien revenir sur cette question de la construction européenne, dont vous dites qu'elle a diabolisé la nation, c'est une expression que vous employez dans le livre, vous venez de dire qu'elle l'a marginalisée.
À travers, je dirais, la lecture qu'on fait des deux guerres mondiales qu'on impute aux nations. Et la thèse que je développe, c'est que les nations ne sont pas responsables des deux guerres mondiales, en tout cas pas de la première.
Ce sont quand même elles qui se sont affrontées à partir de 1914 et de nouveau en 1940.
Oui, mais ce sont les hommes d'État, si on peut dire, enfin les dirigeants politiques, qui ont pris, s'agissant de la Première Guerre mondiale, l'initiative de la guerre préventive qu'elle a été menée par l'Allemagne impériale, d'abord contre la France et la Russie, et ensuite par la Grande-Bretagne, qu'inquiétait la montée de l'Allemagne impériale depuis longtemps, et qui, à travers la violation de la neutralité belge par la mise en application du plan Schlieffen par l'armée allemande, a refusé que l'Europe tombe sous la coupe d'une Allemagne hégémonique, comme elle avait refusé que l'Europe tombe sous la coupe de Napoléon Ier en un siècle auparavant. Donc c'est le même mécanisme qu'on voit jouer. Et je voudrais peut-être terminer là-dessus. À l'origine, mon livre devait s'appeler « D'une mondialisation à l'autre ». Je compare les deux mondialisations libérales avant 14, sous égide britannique, et après 45, sous égide américaine. Et je montre que la mondialisation produit une modification de la hiérarchie des puissances et qu'on ne peut pas comprendre la Première Guerre mondiale si on ne voit pas la très rapide montée de l'Allemagne impériale après son unification, sa première unification. Disons que sur 30 ans, elle triple sa production, l'Angleterre la double, la France l'augmente d'un tiers. Donc le rapport de force est considérablement modifié et je pense que la même chose se produit dans la deuxième mondialisation avec la montée des émergents et de la Chine. Et nous devons être très attentifs à ce que ça signifie et aux précautions qu'il faut prendre si nous voulons éviter que la deuxième mondialisation se termine comme la première avec l'issue que nous savons, la guerre de 1914, qui a ouvert la boîte de Pandore du XXe siècle.
Alors, pardonnez-moi, avant de revenir à la question du déclenchement de la Première Guerre mondiale, auquel vous consacrez un long chapitre, je voudrais revenir sur la question de l'Europe et des nations. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas autre chose qu'une association de nations souveraines. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre livre, en soulignant que désormais c'est le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement, qui est la principale instance de décision, la Commission est relativement effacée, et vous citez Helmut Schmidt, qui dit que l'Europe restera toujours un assemblage de nations. Donc pourquoi brandir le spectre d'un fédéralisme qui ferait disparaître les États souverains, alors que ce sont eux aujourd'hui qui jouent le rôle principal? Et d'ailleurs, les principaux débats sont en France sont des débats français, qui ne correspondent, parce que la plupart des compétences de l'Union européenne, en fait, relèvent des États.
Ah, je ne pense pas du tout comme vous. Je pense que, par exemple, dans des domaines très importants, le commerce extérieur, la concurrence, c'est-à-dire la politique industrielle, c'est la Commission qui a un total monopole de la négociation et, en définitive, de la réglementation.
Avec l'accord des États. Le commissaire qui négocie les va États, soumettre aux États, les États et les propositions et les points d'accord.
Ont un rôle au mieux de frein, mais il est extrêmement difficile à un État de s'opposer à un accord conclu, par exemple, par le commissaire de Gucht, qui est le commissaire chargé de la du commerce extérieur.
Belge.
Belge, peut-être. D'ailleurs, on l'oublie un petit peu. Disons que la Commission s'appuie sur des traités dont le logiciel est un logiciel néolibéral, c'est-à-dire est fondé sur l'idée de la dérégulation et de l'efficience des marchés. C'est la philosophie de l'acte unique. Et à partir de là, applique les traités, prend des directives, des centaines de directives, qui aboutissent à des réglementations extrêmement nombreuses. Et dans toute une série de domaines, la compétence est désormais européenne. Quand on lit le traité de Lisbonne, qui est la reprise de la Constitution européenne de 2005, qui avait été rejetée par les peuples français et néerlandais.
Avec des nuances. Il n'y a plus de référence à une constitution. Enfin bon.
Alors, il n'y a plus de référence à une constitution, mais par exemple, les domaines de compétences sont toujours définis très largement. Et les institutions européennes, la Commission peut se saisir d'à peu près tous les sujets au nom d'une compétence exclusive, d'une compétence partagée, d'une compétence d'exception. Enfin, il y a peu de domaines qui échappent en réalité à l'Europe et aux institutions européennes. Et les États sont quand même marginalisés. Il leur est très difficile de ne pas acquiescer à ce qui est considéré comme l'application des traités, c'est-à-dire de traités qui ont été conçus à un moment qui était le zénith du néolibéralisme. Je vous le rappelle, l'acte unique est négocié en 1985 et le traité de Maastricht, son règlement est adopté en 89 et son calendrier en 91 par le traité de Maastricht. Donc en réalité, c'est une construction qui date, qui porte la marque d'une époque où on pensait que l'Europe pouvait se substituer aux nations. Moi, c'est ce que je conteste. Je considère que la vie des nations continue. Les nations restent le siège de la légitimité démocratique parce que c'est là qu'a lieu le débat et l'intérêt général ne peut pas être défini par une commission au départ de 6 membres, aujourd'hui de 28, comme vous le savez. Donc 28 membres, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça signifie, hein, c'est une pétaudière.
C'est moins qu'un gouvernement.
Mais écoutez, ils ont chacun une compétence, enfin plus ou moins réelle, mais c'est peut-être moins qu'un gouvernement, mais un gouvernement, il est l'émanation d'une majorité, il répond devant le Parlement, il est élu par le peuple. Les commissaires, ils sont choisis dans des conditions très opaques par le Conseil européen, avec la ratification d'un Parlement européen dont la Cour de Karlsruhe nous dit qu'il n'est pas un Parlement, mais la représentation de 30 peuples côte à côte. Donc c'est une machine extrêmement opaque. Et qui, on peut le dire, ne suscite plus la confiance de la majorité des citoyens. Partout, on voit à travers les élections, les sondages, qu'une très grande distance a été prise par les opinions publiques, ce machin européen.
On va pas s'éterniser sur cette question, mais ces multiples directives que vous dénoncez, elles ont toutes été adoptées par les États, et avec l'accord des États.
Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient mesuré ce qu'ils faisaient, parce que le processus est très complexe. Prenons par exemple la procédure du détachement, dont on a parlé, puisque les salariés peuvent être détachés, mais ils payent les cotisations sociales dans leur pays d'origine.
Directive de 96.
Directive de 96, eh bien on s'en est aperçu pratiquement en 2013. C'est-à-dire qu'il se passe 17 ans avant qu'on mesure les conséquences d'une directive. Je ne parlerai pas de la libération des capitaux qui intervient en 1990. Mais comment peut-on expliquer la crise du capitalisme financier qui éclate en 2008-2009 en dehors de la libération des capitaux et naturellement de tout ce qui s'est développé en matière financière, les paradis fiscaux, la titrisation, etc. Cela en l'espace d'une vingtaine d'années.
D'accord, on peut dire que les gouvernements se sont trompés, ont fait une mauvaise politique, ont fait de mauvais choix, mais ce sont eux qui les ont faits. Jean-Pierre Chevènement.
Est-ce que ce sont les gouvernements? Je crois que les gouvernements s'en sont remis à des institutions qui ne sont pas contrôlées démocratiquement. Et si on veut refaire l'Europe sur des bases solides, ce que je préconise, parce que je tiens à le dire, ma critique des institutions européennes actuelles ne signifie pas que je suis contre l'idée européenne. Mmh. Je suis pour l'idée européenne, mais je suis pour reconstruire l'Europe sur des bases solides. Et ce qui est solide, qu'on le veuille ou non, ce sont les nations. Parce que c'est là qu'est la démocratie, et c'est là qu'est pour l'essentiel la solidarité. Et je trouve qu'on a injustement discrédité les nations, on les a diabolisées, on les a ostracisées, comme si elles étaient l'origine du mal. On a confondu la nation et le nationalisme. Et en plus, quand on regarde la manière dont a été ouverte la boîte de Pandore en 1914, on s'aperçoit que c'est un très petit nombre de décideurs qui se comptent sur les doigts des deux mains qui sont intervenues dans cette affaire et qui ont précipité l'Europe du haut de son piédestal, car elle dominait le monde, dans un tourbillon de guerre qui, 30 ans après, l'ont retrouvé ruiné, démonétisé, c'est le cas de le dire, et même, on peut le dire, en tout cas au moins pour l'Allemagne, profondément discrédité sur le plan moral par ce qu'a été le nazisme.
Alors, revenons à ce déclenchement de la guerre de 14. La guerre de 14 va donner lieu à de nombreuses commémorations à partir de l'année prochaine. Ça a déjà commencé. Et alors, vous, à plusieurs reprises, vous exprimez la crainte que ces commémorations ne donnent une image déformée de cette guerre, en ne retenant ce qui n'est pas nécessaire de retenir. Donc, pourquoi cette crainte, d'abord? Et quelle vision est la vôtre de cette guerre des 14 qui ne serait contraire à ce que disent aujourd'hui les commémorations?
Ben, globalement, on peut dire quand même que la guerre de 1914-18 suscite un réflexe d'horreur, de rejet. En plus, nous savons qu'elle a ouvert la voie à ce qu'on a appelé les totalitarismes, si différents qu'ils soient. Et puis que la Deuxième Guerre mondiale procède évidemment de la Première, parce que on a fait porter au traité de Versailles des responsabilités excessives. En réalité, les élites allemandes n'acceptaient pas la défaite de 1918. Et il me semble que la commémoration peut rendre totalement illisible notre passé et aboutir à faire en sorte qu'il soit purement et simplement rejeté, comme si l'Europe commençait en 1945 ou même en 1951, et comme s'il y avait une gigantesque parenthèse entre le partage de l'Empire de Charlemagne en 843 et 1945, comme si cette histoire de l'Europe avait été des prémices absurdes à ce qui allait être une ère de félicité. Je pense qu'il vaut quand même regarder l'histoire dans sa continuité, voir ce qui s'est passé. J'évoquais la première mondialisation libérale et le déplacement de l'équilibre des puissances qu'elle a suscité, la montée du capitalisme allemand, mais aussi américain, japonais, et tout cela va confluer vers cet événement de 1914, qui est d'autant plus étonnant que la puissance qui pouvait inquiéter, c'était l'Empire britannique, qui voyait monter la puissance industrielle commerciale de l'Allemagne, qui voyait l'Allemagne développer des armements navals en même temps qu'une puissante armée de terre. Et finalement, ce sont les dirigeants allemands, en particulier l'état-major allemand, le premier ministre de l'époque, Bethmann Hollweg, Guillaume II, l'empereur, le ministre des étrangers, Jagow, qui prennent la responsabilité. D'abord, ils souhaitent localiser le conflit En Serbie, c'est-à-dire permettre à l'Autriche-Hongrie de régler son compte à la Serbie, il lui donne carte blanche, 5 juillet 1914. La Serbie lance un ultimatum. L'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, ça doit être le 25 juillet après le départ de Poincaré de Saint-Pétersbourg. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet. Et ensuite, malgré une tentative de médiation anglaise, on assiste à la mobilisation de l'Autriche-Hongrie, de la Russie, de l'Allemagne, qui déclare la guerre à la Russie, à la France, et applique un plan qui existait depuis 1905, le plan Schlieffen, c'est-à-dire l'invasion de la France par la Belgique, de façon à mettre la France hors de combat 5 ou 6 semaines et à se retourner ensuite contre la Russie.
Alors, permettez, pourquoi est-il si important pour vous de souligner la responsabilité de l'Allemagne ? C'est un sujet controversé, vous savez bien. Pierre Renouvin, le grand historien de la Première Guerre mondiale, a attribué la responsabilité principale à l'Autriche et à la Serbie. D'autres thèses disent que c'est la Russie et la France qui sont les principaux responsables. Pourquoi est-il si important aujourd'hui d'établir que les responsabilités immédiates du déclenchement de la guerre sont allemandes ?
Ben, je crois qu'il est d'abord très important de savoir comment ça s'est passé dans les faits. Et je distingue deux choses, hein, les causes profondes qui sont dans la mondialisation.
D'accord.
Et l'origine immédiate, je dirais, la responsabilité du déclenchement de la guerre. Il est quand même important d'y voir clair, même si je précise bien entendu que ce n'est pas le peuple allemand qui est responsable de la guerre. Je prends bien soin de distinguer les élites dirigeantes et les nations. Je crois que les nations, dans l'ensemble, elles sont pacifiques. Hein, c'est un mythe de décrire les manifestations patriotiques, etc. Ça concerne un tout petit milieu, et en réalité, le fond des populations dans chaque nation est pacifique. Mais il est important de rester près des faits, et je suis tout à fait en désaccord avec vous s'agissant de l'interprétation que donne Renouvin du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Renouvin n'impute pas la responsabilité principale à l'Autriche. Renouvin, qui était responsable des cahiers d'histoire de la Première Guerre mondiale, pratiquement 1919 à 1939, a dès 1925 établi une thèse qui a fait quasiment consensus parmi les historiens, qui a été reprise en 1961 par un historien allemand qui s'appelle Fritz Fischer. Mais cette thèse est assez claire. Les dirigeants de l'Allemagne, je veux bien préciser, les dirigeants de l'Allemagne voulaient localiser le conflit dans les Balkans, ce qui supposait une sorte de Munich avant la lettre de la part de la Russie par rapport à la Serbie. J'emprunte cette expression à Georges Sokolov dans un livre intitulé « La puissance pauvre ». Je pense que il y a eu cette idée que l'Autriche allait régler son compte à la Serbie, ce qu'elle n'a pas été capable de faire rapidement. Si elle avait agi plus rapidement, peut-être que ça se serait passé comme ça. Toujours est-il que à un certain moment, l'état-major allemand, qui se croyait encerclé, qui voulait rompre l'Einkreisung, c'est-à-dire l'encerclement de l'Allemagne, et qui avait prévu un plan depuis longtemps pour cela, c'est-à-dire mettre la France hors de combat, puis se jeter sur la Russie de façon à ne pas mener une guerre sur deux fronts, c'était quand même l'idée de base, c'est cette idée-là qui a été appliquée, et que l'Angleterre a en quelque sorte voulu contrebattre, en entrant en guerre dès le 4 août, mais là c'est l'Angleterre qui déclare la guerre à l'Allemagne.
Thank you.
Vous êtes sur Fréquence Protestante, vous écoutez Le Parcours Européen. Mon invité est Jean-Pierre Chevènement, qui vient de publier aux éditions Fayard, j'ai oublié de le mentionner, un livre intitulé 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation. Et j'ajouterai, et comment l'y faire revenir. Nous avons parlé pendant la première partie de cette émission largement du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui est à l'origine de cet effacement de l'Europe, de la scène internationale, selon Jean-Pierre Chevènement, guerre de 14, puis guerre de 39-45. Je voudrais maintenant que nous revenions à la question...
Puis méthode choisie pour construire l'Europe.
Voilà, nous revenons à la question de l'Europe. Vous avez dit au cours de cette émission que vous n'étiez pas contre l'idée européenne. Alors, à quoi ressemblerait pour vous l'Union européenne, ou disons plutôt, vous préféreriez parler d'une confédération européenne, donc cette Union européenne que vous appelez de vos voeux, en quoi différerait-elle de celle d'aujourd'hui?
Je crois que celle d'aujourd'hui ne marche plus, déjà. Nous sommes dans un bourbier dont on n'arrive pas à sortir. Les décisions sont très difficiles à prendre. La Commission européenne se réunit à peine. L'absentéisme y est remarquable. Nous sommes très loin de la petite commission à 6, une commission à 28. Chaque pays désigne un commissaire, ce qui n'est d'ailleurs pas extrêmement raisonnable. La seule institution qui a été épargnée par l'évolution récente, c'est le Conseil européen. Et il y a cela une bonne raison, c'est que les chefs d'État et de gouvernement représentent les autorités démocratiques de leur pays. Donc il y a quelque chose de raisonnable dans cette inversion des pouvoirs entre la Commission et le Conseil européen. Je la salue comme allant plutôt dans le bon sens. Maintenant, se pose la question du contenu des décisions qui sont prises. Tout est sacrifié à une monnaie unique dont il faut quand même reconnaître qu'elle a été gravement erronée, en ce sens qu'elle a juxtaposé des économies nationales très différentes, très hétérogènes, dont on voit que la spéculation s'est saisie et que on ne parvient à juguler provisoirement d'ailleurs la spéculation et la pression des marchés financiers qu'en obligeant un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Europe du Sud, à des plans de déflation interne qui sont extrêmement douloureux, qui peuvent se traduire par des chiffres de chômage astronomique, 27% du chômage en Espagne et en Grèce, 50% des chômeurs de moins de 25 ans, c'est-à-dire quand même une situation dont on peut se demander si elle peut se prolonger très longtemps. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause aussi cette monnaie unique? On pense que l'Allemagne pourrait jouer un rôle de locomotive, que la Banque centrale pourrait être plus active à l'image des autres banques centrales dans le monde, acheter des titres de dette publique, prêter à nouveau aux banques, mais plutôt pour les amener à prêter aux entreprises, parce qu'aujourd'hui il y a une véritable grève du crédit. Et puis plus fondamentalement, si on veut remédier au vice congénital de la monnaie unique, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir par la voie négociée, je précise bien, par la voie négociée, à un mécanisme de monnaie commune qui avait été envisagé dans le plan Werner dans les années 70 et même en 1989, qui avait les faveurs de Pierre Bérégovoy en France, qui était soutenu par la Grande-Bretagne et sur lequel moi j'ai travaillé à l'époque, et je pense qu'on pourrait y revenir par degrés, sans casse excessive, mais il faudrait pour cela qu'il y ait une conscience du péché capital, si j'ose dire. Qui est dans la monnaie unique.
On a cru que la monnaie unique entraînerait, au fond, une politique économique mieux coordonnée. On a cru que ça se ferait
On a cru qu'elle ferait converger les économies.
D'accord, mais ça ne s'est pas fait, mais on peut aujourd'hui créer, par exemple, un gouvernement économique qui permettrait d'équilibrer l'euro.
Et c'est facile de dire gouvernement économique, mais est-ce que ça signifie par exemple un plan d'investissement qui serait de nature à rehausser la conjoncture, puisqu'il n'y a pas d'investissement privé. L'Allemagne s'y oppose, vous le savez. l'union bancaire. On en est aux prémices, très franchement, quand on voit que le mécanisme de résolution des crises présuppose un fonds de contribution alimenté par les banques qui sera opérationnel en 2026 et que d'ici là, l'Allemagne n'entend pas qu'il puisse y avoir un mécanisme communautaire, qu'un mécanisme de mutualisation, mais que chaque pays reste maître de la solution des crises pouvant affecter ses propres banques, on se dit qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Hein, je crois qu'on a tendance à se bercer d'un certain nombre d'illusions sans voir que dans la réalité, l'Allemagne considère qu'elle est déjà très engagée dans le sauvetage de la monnaie unique. Un économiste allemand, Hans Werner Sinn, a chiffré à 30% de son PNB le montant des engagements qu'elle a souscrits. Et vous savez, la France aussi, hein, le mécanisme européen de solidarité, nous avons garanti à hauteur de 142 milliards. Qui sait en France que dans notre dette, 100 milliards résultent des prêts à la Grèce, au Fonds européen de solidarité financière, au mécanisme européen de solidarité. Ça signifie donc plus de 5 points de la dette de la France. Donc tout ça, les Allemands y sont beaucoup plus attentifs que nous parce que c'est leur culture. Et je pense qu'ils ne financeront pas toujours une monnaie unique qui ressemble à un tonneau des Danaïdes. Donc je pense qu'il faut préparer les voies d'une convergence entre la France et l'Allemagne, qui sont les deux pays qui ont mis la monnaie unique sur les fonds baptismaux, pour sortir de ce pétrin et définir une perspective dynamique, démocratique, avec une Europe diverse, une Europe à géométrie variable, hein, il faut le dire aussi clairement que cela, de la Méditerranée à la Russie, parce qu'il faut concevoir l'Europe au XXIe siècle par rapport à la puissance de la Chine et des États-Unis, et nous ne serons pas de trop, hein, j'inclus dans cette grande Europe non seulement la Turquie et le Maghreb, mais la Russie.
Je trouve bien indulgent avec la Russie, d'ailleurs, parce que vous dites la Russie n'est peut-être pas une démocratie parfaite, mais la nôtre l'est-elle. Comme si on pouvait établir un parallèle entre la démocratie occidentale et la démocratie russe, qui est quand même aujourd'hui largement bafouée par Poutine.
Oui, vous savez, il faut se méfier des idées toutes faites. La constitution russe date de 1993. Jusqu'à présent, ils n'ont pas changé. Après 1789, nous avions changé au moins 6 ou 7 fois de constitution, est-ce bien minimum. J'ajoute que Poutine l'a appliqué. Hein, il a été 2 fois président, puis il s'est retiré, puis il est redevenu président. Et on voit que dans des villes comme Yekaterinbourg, par exemple, un candidat d'opposition, c'est une ville d'1,5 million d'habitants, hein, a pu être élu maire de la ville contre le candidat de Russie unie, le candidat de Poutine. Qu'est-ce que vous voulez ? Vladimir Poutine a été élu président avec 63% des voix. Il y a eu des contestations, mais personne ne peut nier qu'il y a une majorité de Russes qui considèrent que Poutine est leur président légitime. Hein, l'opposition est elle-même très divisée. Monsieur Navalny pourrait passer pour un homme d'extrême droite en France, étant donné les thèses qu'il professe sur l'immigration. On a, à mon avis, en Europe occidentale, tendance à ne pas voir que l'URSS a cessé d'exister, qu'il y a un pluralisme réel en Russie, que les radios peuvent s'exprimer librement, que le net est également le foyer de toutes les contestations possibles et imaginables, et qu'il faut donner du temps au temps. La Russie est quand même un pays difficile. Hein. Ce n'est pas pour nous un adversaire, ce n'est plus une menace. Hein. Je pense qu'au XXIe siècle, nous aurons au contraire besoin d'un pays comme la Russie entre l'Asie et l'Europe. Donc, pourquoi faire souffler à nouveau le vent de la guerre froide ?
Est-ce que vous parlez aussi là comme représentant spécial de Laurent Fabius auprès de la Russie ? C'est une fonction qui vous
non,
a confiée ?
Je suis dans le cadre de la diplomatie économique, hein, représentant spécial de la France pour la Russie. Mais si vous voulez, j'exprime là un point de vue politique. Je suis parlementaire, donc je m'exprime en tant que parlementaire.
Alors dernier point.
Et en tant que citoyen.
Bien sûr. Hein. Vous pourrez donc...
Mais j'essaye de vous expliquer qu'il y a beaucoup de malentendus et que tout ça procède aussi d'une vue géopolitique qui a par exemple été exprimée par M. Brzezinski. Il faut que, par exemple, l'Ukraine et la Russie soient séparées. Et que, pour une raison très simple, c'est que, à ce moment-là, la Russie cessera d'être une puissance mondiale. C'est écrit tel quel par M. Brzezinski et ses pensées par des cercles de géopolitique américaine. Et tout ça est naturellement repris en Europe par des gens qui, le sachant ou ne le sachant pas, pensent véritablement que le combat des dissidents dressés contre le communisme soviétique continue aujourd'hui. Je pense que c'est une vue réductrice, fausse de la réalité, qui nuit au développement de nos échanges, qui nuit à la diversification économique de la Russie. On voit s'y développer des classes moyennes nombreuses, et je pense que la démocratie ira avec le développement de ces classes moyennes, ira avec le développement économique, et qu'aujourd'hui, vouloir recréer une nouvelle guerre froide en Europe n'a pas de sens. Nous n'avons d'ailleurs pas autant d'argent à donner à l'Ukraine que les Ukrainiens qui manifestent dans la rue le croient. S'imaginent qu'ils vont voir les corps de l'abondance se déverser sur l'Ukraine. Je pense que l'Europe n'en est pas du tout là. Il y a donc beaucoup de malentendus, beaucoup de mystification, beaucoup de manipulation et peu de raison dans la manière dont ces questions sont aujourd'hui abordées.
Il y a aussi quelques prisonniers politiques.
Quelques
prisonniers politiques qui rappellent...
En Ukraine, oui.
Non, je parle de la Russie. En Russie.
Il y a monsieur... Comment s'appelle-t-il?
Khodorkovsky,
qui s'était quand même approprié la totalité du gaz et du pétrole russe au lendemain de la chute de l'URSS. Et il n'était pas forcément choquant que la Russie veuille reprendre le contrôle de ses richesses naturelles. C'est d'ailleurs ce que disait le programme du Conseil national de la résistance en France en 1944.
Alors, dernier point, vous insistez beaucoup, pour faire revenir l'Europe dans l'histoire, sur la nécessité de refonder la relation franco-allemande. Qu'est-ce que vous entendez par là? Faut-il un nouveau traité de l'Élysée, dont les potentialités, si je puis dire, ne sont jamais vraiment réalisées? Comment refonde-t-on cette relation? D'autant que vous posez la question, à un moment, l'Allemagne a-t-elle encore besoin de l'Europe?
Oui, économiquement, on pourrait penser que l'Allemagne peut se passer de l'Europe, être un grand pays offshore, qui exporte 7% de son PNB, c'est-à-dire plus que la Chine, mais en même temps la géographie commande, l'histoire et la réalité, que le peuple allemand est un très grand peuple européen, indispensable à l'Europe, au cœur de l'Europe. Donc on ne peut pas construire l'Europe sans une étroite union entre la France et l'Allemagne, parce que la France reste une grande puissance politique, grâce en particulier à la résistance qu'elle a offerte pendant la Première Guerre mondiale, dont Churchill se souvenait en 1944, et c'est peut-être ce qu'il faut rappeler s'agissant du souvenir des poilus. Mais pour revenir à l'Allemagne, il est clair que le peuple français et le peuple allemand procèdent à certains égards d'une même histoire. C'est le partage de l'Empire de Charlemagne, 843, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous l'ignorons souvent parce que nos langues sont très différentes, nos cultures ne sont pas les mêmes, mais nous pouvons comprendre l'histoire de l'Allemagne. C'est un peuple qui n'a pas eu de territoire pendant très longtemps parce qu'il était à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique où il coexistait avec d'autres peuples, les Italiens, les Tchèques, même des Français qu'on appelait à l'époque bourguignons. Moi-même, de Belfort ou de Franche-Comté, je peux savoir quand même que nous faisions partie du Saint-Empire romain germanique jusqu'à une date récente.
Mais votre nom était
Et mon nom est d'origine germanique, qui vient du canton de Fribourg en Suisse. Mais disons que voilà, l'histoire de l'Europe, elle existe. Il faut la comprendre dans toutes ses dimensions. D'accord. Aller au-delà des malentendus qui peuvent encore subsister, car il en subsiste. Mais le traité de l'Élysée, dont vous parliez tout à l'heure, même s'il n'a pas produit de résultats pratiques sur le plan de la défense ou sur le plan de l'apprentissage de la langue de l'autre, a quand même été un miracle, parce qu'il a vraiment été une césure dans l'histoire de la France et de l'Allemagne. Nous savons que désormais, nous ne pourrons plus faire notre histoire qu'ensemble et que nous devons constamment nous parler, même si nous ne sommes pas d'accord entre nous.
traité de l'Élysée, je rappelle, 1963, entre le général de Gaulle et Adenauer. Alors, peut-être dernière question, puisqu'il nous reste quelques minutes. Comment recrée-t-on ou crée-t-on un sentiment d'appartenance européenne parmi les citoyens, surtout quand on insiste, comme vous, sur la nation?
Mais parce que la nation est la brique de base de l'Europe à construire. Je pense que cette Europe ne peut pas se passer des nations. Et elle ne peut pas se passer en particulier d'une étroite entente entre la France, l'Allemagne, mais aussi de l'acceptation que la Russie est un grand peuple européen. Et il faut que les nations européennes se mettent d'accord sur cette idée-là, que nous voulons faire ensemble une Europe européenne, une Europe qui existe par elle-même. C'est ce que disait le général de Gaulle en 1963. Simplement, il y a eu un préambule que le Bundestag a imposé qui réaffirmait la priorité de l'alliance américaine. Ce qui se comprenait parfaitement à l'époque, puisque l'Allemagne était divisée. Mais elle ne l'est plus. Et l'idée d'Europe européenne qui pouvait paraître irréaliste au moment du traité de l'Élysée, aujourd'hui, elle a pleinement son sens.
Et comment la fait-on pénétrer dans les cerveaux des Européens?
Eh bien, je dirais en leur disant une chose très simple. Dans le 21e siècle, l'Europe est vouée à se rapetisser. La puissance montante, c'est la Chine, qui va égaler les États-Unis dans quelques années par son PNB, qui va être beaucoup plus puissante par la suite. Naturellement, l'Empire américain demeure et il restera la puissance dominante, probablement tout au long du siècle, mais il faut que l'Europe existe par elle-même. Et elle ne peut exister par elle-même que dans cette configuration d'une Europe des nations, de la Méditerranée à la Russie, sinon il n'y aura pas d'Europe européenne.
Sans pouvoir supranational.
Il y aura des protectorats américains.
Sans pouvoir supranational du tout. Sans organisme supranational.
Si, une confédération avec un Conseil européen, même une commission réduite au rôle d'une administration, préparant les décisions et les exécutant, un Parlement européen qui gagnerait être une représentation des parlements nationaux, parce que ça ferait mieux communiquer les démocraties nationales. Et les grands enjeux européens, qui sont quand même, non pas la teneur du chocolat en cacao, mais, je dirais, l'industrie, l'énergie, la défense, la politique extérieure, la libre circulation des Européens dans cet espace européen, là, ce sont des grands sujets qui peuvent motiver les Européens, et la reconstruction, je dirais, d'une monnaie qui permette une croissance permettant de faire reculer le chômage, qui est aujourd'hui la tare de l'Europe que nous avons construite et qu'il faut reconstruire sur des bases renouvelées.
Vous parlez aussi de la nécessité de préserver et de rénover l'État social en Europe. Ça veut dire, est-ce qu'il y a toujours un modèle social européen à vos yeux?
Oui, bien entendu. Je pense qu'il ne faut pas abandonner le modèle social européen. C'est ce qui fait quand même le mirage européen. Nous parlions tout à l'heure des Ukrainiens. C'était vrai des autres PECO. Je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui,
ouais.
Pays d'Europe centrale orientale. Mais le modèle social avancé, qui est celui de l'Europe, est un phare pour le reste de l'humanité. Regardez la Chine. La Chine commence à réfléchir à la création d'un système de sécurité sociale, d'un droit du travail. Et je pense que tous les pays dits émergents ne peuvent pas rester des pays de capitalisme sauvage, doivent aller vers un capitalisme régulé, vers un État social moderne. Et de ce point de vue-là, même si nous avons à rénover notre système social, et je salue d'ailleurs les réformes qui sont faites, notamment de la réforme professionnelle qui vient d'intervenir, et de la sécurisation de l'emploi, je pense que ça va quand même dans le bon sens, c'est des choses naturelles. Il faut s'adapter au monde dans lequel nous sommes. Nous devons quand même faire face à la montée des pays émergents. Nous n'avons plus le monopole de la technologie. Nous devons travailler davantage, mieux, parier davantage sur l'intelligence, la recherche. Tout cela, c'est l'avenir. Mais en même temps, nous devons préserver, par exemple, le fait que nous avons un système de santé sinon gratuit, du moins accessible à peu près à chacune et à chacun.
D'accord. Merci beaucoup. Bien, cette émission est terminée. Je recevais Jean-Pierre Chevènement, auteur d'un livre paru aux éditions Fayard, 1914-2014, L'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Nous avons longuement parlé à la fois de l'histoire de l'Europe d'hier et peut-être de l'Europe de demain, qui n'est pas tout à fait pour vous celle que nous vivons actuellement. Merci à tous et je vous donne rendez-vous le mois prochain.